Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Tous les soirs, c'est une heure de conversation tranquille avec les artistes. Ce soir, Fabio Viscogliosi.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es pâté.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Fabio Viscogliosi.
On est plus ou moins sensible aux saisons, plus ou moins concerné par le passage de l'une à l'autre. De même, l'heure qu'il est dans la journée nous affecte différemment. Par exemple, tout le monde ne remarque pas que l'odeur du jasmin ne monte qu'une seule fois le soleil presque couché, qu'il faut attendre une certaine heure sur la plage pour que tout change et radicalement, tout dans les corps, dans l'eau et dans la roche. Tout le monde ne connaît pas les moindres embûches sur le trajet qui mène de décembre à septembre et c'est un long trajet. Vous semblez, vous, Fabio Viscogliosi, être l'observateur précis de ces modulations. Comme les feuilles et les arbres se laissent faire par le temps, vous acceptez l'espace d'une chanson ou d'une promenade, de vous laisser faire par les mots. Vous semblez avoir confiance dans les yeux, parce qu'ils savent le secret. Rococo, c'est le titre de votre nouvel album. Il sort sur le label Objet Disque. Sur la pochette, un âne, encore un, des chiens enquêteurs et une grenouille. Ils seront tous avec nous ce soir. Est-ce que nous sommes bien accompagnés ?
Pas mal. Je mettrai peut-être pas tous mes yeux dans le même panier. Mais...
Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Oui, on est en bonne compagnie quand on a un âne, des chiens enquêteurs, une bougie, une boussole.
Une boussole, important.
Important. Mmh. Et une grenouille ou un crapaud.
Oui, je sais pas exactement. Une grenouille peut-être, non ? Qui se crapouille.
Qui se crapouille et qui discute avec un âne.
Ouais. Exactement, ouais.
C'est des bons copains ?
En tout cas, ce sont des vieux copains. Ouais. Ouais. Des bons, je ne sais pas, mais des vieux copains. Ça fait longtemps qu'ils m'accompagnent un peu partout. Et maintenant, sur ce disque. Ouais.
Vous le savez maintenant, pourquoi ils vous accompagnent comme ça ?
Et non, on me pose souvent la question, je ne sais pas. Ils ont un côté masque, en fait. Je ne sais pas si ce sont vraiment des animaux, c'est peut-être des humains, avec simplement des traits un petit peu accentués. Et la boussole, je suis pas sûr non plus qu'elle indique vraiment le nord, en tout cas, à côté un peu fantaisiste.
Elle est un peu entre tout, hein.
Elle est
au milieu du nord et de l'est, en même temps au milieu de l'ouest et du sud, donc un peu nulle part en fait.
Exactement.
Quant à la bougie ?
Un petit peu lumière, c'est pas mal. Même si elle vacille légèrement, mais oui.
En la regardant comme ça, je pense au fait que j'ai pensé à Rousseau et aux rêveries du promeneur solitaire. Je ne sais pas pourquoi j'imagine comme ça des auteurs de cette époque écrire à la faveur et à la lueur d'une bougie.
Avec une plume et quelques courants d'air qui passent par là. La flamme qui vacille. Oui, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si je suis si old school, en fait. Mais oui, sinon, mais c'est... Oui.
Peut-être que vous êtes promeneur et un peu solitaire.
Il y a de ça, ouais, nécessairement. De toute façon, quand on pratique ces choses-là, il y a beaucoup de solitaire, ouais, beaucoup de solitude, beaucoup de promeneur aussi. Ouais. Non, mais c'est une très bonne, parfait. Je prends le.
Du doigt, elle vend le gel des toits. Emmène-moi près de septembre. Tout le nécessaire et les feuilles et les arbres vont se laisser faire pour nous plaire. Oui, descendre. Du doigt, emmène-moi près de septembre. Est-ce sur la glace que se penchent les anges? de nécessaire, et les feuilles et les arbres vont se laisser faire pour nous plaire.
Septembre, un extrait de ce disque Rococo. Alors, je disais en introduction qu'il y avait quelque chose de très fort pour moi dans cet album qui avait à voir avec, peut-être, oui, bien sûr, le temps qui passe, mais la régularité des saisons, celle des heures dans une journée qui se répète de jour en jour, la manière dont les lumières modulent en fonction de cela. Il y a quand même deux chansons qui portent des titres de moi. Est-ce que ça faisait partie des choses que vous vouliez raconter ?
En tout cas, c'est un disque qui s'est fait sur une assez longue période de solitude et d'errance, comme ça. Donc, oui, il est probable. J'aime beaucoup les... J'ai toujours aimé Septembre. Je pensais à September Song, en fait, bien sûr. Et,
Alors, bien sûr, pour ceux qui ne font pas le lien, c'est quoi ?
C'est une très vieille chanson qui a été un standard, comme on dit. Et qui compte comme ça le passage du temps. Mais d'une manière générale, moi je suis assez sensible, que ce soit dans les disques, dans les chansons, dans les livres, au temps qu'il fait. En fait, je trouve pas du tout que ce soit quelque chose d'anecdotique. Au contraire, ça contextualise vraiment de manière très très importante, en fait, ce qui est évoqué, convoqué, narré. Donc oui, c'est une. Je rebondis sur votre idée de promenade du départ, bien sûr. La promenade s'accomplit nécessairement dans un espace, mais dans une durée. Donc,
Puisque vous précisez que la durée a été longue d'écriture, de promenade, de composition pour ce disque-là, vous voulez bien nous dire un peu qu'est-ce qui contient comme temps, ce disque-là ? Est-ce que c'est juste le temps qui existe entre deux albums, vraiment ?
Non, parce que dans mon cas, ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti de disque, j'ai fait des tas d'autres choses entre les deux. Donc, j'ai pas le sentiment d'être dans un fonctionnement académique et orthodoxe. On enregistre un disque, on tourne, on fait un suivant, quoi. Donc, tout ça est plus accidenté et plus hypothétique. Donc, voilà, je pense que beaucoup, enfin, souvent, mes disques et mes livres sont les résultats de promenades et d'errance. Et peut-être, c'est marrant, ça me fait penser aussi au fait que j'ai énormément lu ces dernières années, essentiellement des journaux d'écrivains, avec une sensibilité particulière pour ça, cette espèce d'écriture du jour. Mais la succession des jours, en fait, c'est pas l'extraordinaire, mais c'est plutôt la succession, la variation. Ouais,
il a ce conscient du temps, en effet. Il y a toujours quelque chose de très émouvant dans des journaux où... On ne sait pas comment l'expliquer, mais en effet, on va lire alors 4 décembre 1972, oui, 8 décembre 1972, et c'est important. Enfin, c'est des choses en soi, ça nous laisse de quelque chose.
Oui, c'est vraiment, c'est très très important, effectivement. D'autant que ça convoque des simultanéités d'événements, d'actions, de personnes, de vies différentes. Et c'est émouvant d'imaginer chacune de ces dates, chacune de ces heures est le croisement de plusieurs choses. Et pour chacun, ça viendra résonner différemment. Donc c'est particulièrement émouvant, effectivement. Ouais.
Et vous tenez un journal ou des journaux ou des carnets de notes?
Eh ben, c'est le paradoxe, pas vraiment. J'ai plutôt tendance à écrire sur des bouts de papier qui me tombent des poches, des notes de supermarché ou tout ce que je peux trouver. Mais j'admire ça chez ceux qui le font et qui l'ont fait. En tout cas, je suis lecteur, mais j'en tiens pas particulièrement. C'est vraiment un paradoxe, d'ailleurs. Ouais. C'est, enfin, un paradoxe, une contradiction, peut-être même. J'en sais rien, mais.
Sauf à considérer que certains de vos livres procèdent un petit peu de ça. Et que certains de vos disques, ou même les disques de manière générale, procèdent un petit peu de journal.
Effectivement, oui. Par exemple, j'adore les carnets, les cahiers, enfin tout ce qui est... Mais je n'écris pratiquement jamais à l'intérieur. J'en achète parfois, je les range dans des tiroirs.
Vous dessinez quand même dedans, ou même pas, c'est l'étiquette qu'est-ce qu'ils valent?
Assez peu, sur des feuilles volantes. Le carnet a tendance à m'angoisser, parce que j'ai l'impression qu'il est tenu, et qu'il est resserré, qu'il est déjà relié. En fait. J'aime bien les feuilles volantes. En revanche, quand arrive le moment de réunir, de rassembler et de publier ou d'éditer, que ce soit un livre ou un disque, on ramasse les feuilles volantes, on ramasse les feuilles comme en septembre, donc je sors mon râteau et je commence à regrouper tout ça.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas peur de les perdre?
Non, je crois que j'ai pas, non, oui, j'ai pas spécialement d'angoisse par rapport à ça. J'en ai beaucoup d'autres. Mais...
Ça va, tout le monde est bien loti. Oui. C'est ok. Pour revenir sur cette première chanson qu'on écoute, Septembre, elle raconte le mois de septembre, mais surtout elle raconte un trajet. Elle raconte le trajet de décembre à septembre. Bon, moi, évidemment, j'ai fait un petit calcul comme ça, 9 mois. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est le temps d'une grossesse. Alors que peut-être pas du tout. Mais en tout cas, je me suis dit, c'est quand même un temps de gestation, septembre à décembre, ou décembre à septembre.
Ouais. J'avais pas fait ce calcul que vous venez de faire, effectivement, mais pourquoi pas. mais j'ai l'impression, en plus, quand on est en décembre, on aimerait être en septembre, enfin, on n'est jamais content, hein, c'est un peu tous comme ça. On rêve tout le temps de la saison prochaine.
Ah oui, quand vous êtes en décembre, vous l'êtes en septembre, vous?
Non, parce que je dis on, les gens en général. J'essaye de travailler sur moi pour me satisfaire de la saison présente.
Et vous avez quoi comme rapport de passage entre les saisons?
Ah, c'est compliqué, c'est comme la lune. Hein. Je sais pas, je dors mal, j'ai mal dans les muscles, je sens qu'il se passe quelque chose. Mais je sais pas quoi, mais je combats ça.
Alors si c'est pas une grossesse, parce qu'évidemment ça peut être plein de trucs, 9 mois, c'est débile de considérer que c'est une grossesse forcément. Mais si c'est pas une grossesse, alors c'est quoi comme trajet, ce trajet dont vous parlez dans cette chanson?
Mais c'est un drôle de truc les saisons, parce qu'on dit septembre, on dit l'automne, on dit l'hiver, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est immuable, alors que toutes les saisons, enfin, il y a qu'un mois de septembre, mais il y en a eu des milliers et des millions, et c'est quelque chose qui à la fois est répétitif, à la fois singulier et répétitif. C'est très étrange, enfin, c'est une dimension. Hein. Donc ça me touche, le printemps, de manière, enfin, il y a quelque chose, je trouve, de... Après, le trajet, il raconte, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire le cheminement. Il y a un personnage hein, qui se promène sur le chemin, sur la pochette, avec sa planche sur l'épaule. Le cheminement des jours et de la variation. Ce qui est aussi étonnant, c'est que finalement, il n'y a pas un seul jour qui est semblable. En fait.
Et votre pratique artistique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit d'écriture, qu'elle soit de dessin, elle s'ancre quotidiennement. C'est quelque chose qui vraiment habite tous les jours.
Oui, mais je crois même que c'est ça qui me tient, c'est-à-dire c'est se lever tous les matins et dessiner et immédiatement, avant même d'avoir les idées claires, avant même d'avoir une conscience totale de ce qu'on produit. Je travaille assez peu par projet, je travaille plus, oui, effectivement, on évoquait la possibilité d'un journal, enfin moi ce sont pas des journaux, mais finalement mon travail est une espèce de long journal. Et cette scansion des jours, elle est capitale, enfin, et... Le dessin d'aujourd'hui mènera au dessin de demain, et ainsi de suite. Et c'est peut-être l'entre-deux aussi qui est intéressant autant que ce qui est produit. C'est-à-dire ces interespaces, ces contre-formes comme ça qui naissent entre deux formes.
Quand vous parlez de cette pratique-là, du dessin, je pense aussi à, et du dessin au lever du jour ou au saut du lit, en fonction de l'heure qu'il est. Je pense aussi à ces mots que vous écrivez pour cette chanson et qui disent que les arbres et les feuilles se laissent faire, qu'il y a une manière comme ça d'être agi par les choses plutôt que d'être volontariste et volontaire. Est-ce que c'est comme ça que vous faites les choses aussi?
Oui, j'ai beaucoup prôné cette idée de laisser faire, de suivre sa pente, de se laisser glisser dans les choses plutôt que...
Ça marche ?
Je pense, ouais, finalement. En tout cas, oui, je sais pas si ça marche, mais... pas forcer, rien forcer. Il y a un côté laisser... j'essaye de travailler sans penser que je travaille. J'essaye de dessiner très vite ce qui m'apparaît, écrire. Par exemple, les paroles des chansons, je les écris pas sur des feuilles de papier avec une espèce de... ces choses qui me viennent en jouant la musique et en la répétant. Il y a beaucoup cette idée de répéter les choses jusqu'à ce que petit à petit elles se précisent. Plus par la pratique, donc en laissant un peu faire aussi. Pas trop en tordant les barres de fer, mais plutôt en laissant les brindilles un peu s'agiter comme là où elles le souhaitent. Ouais. Je suis plutôt partisan de ça, plus je vieillis.
Ça veut dire que quand un disque arrive, il arrive au bon moment?
Disons qu'il arrive quand il vraiment, c'était son moment, oui. Mais c'est bien que les, surtout quand on traîne ces journaux musicaux comme ça pendant longtemps, c'est bien que de temps en temps, ils aillent se promener un petit peu ailleurs, de chez soi, qu'ils puissent aller vivre leur vie aussi.
Elles ont des âges très différents, les chansons, sur ce disque-là?
Pour certaines, oui. Après, j'ai depuis qu'il a été imprimé et gravé, on a tendance à faire une update.
On essaye tout d'oublier. Est à plat et tout a été composé pour ce disque-là.
Voilà, donc tout a été fait très vite, en 3 jours. Non, c'est faux. Non, mais il y a des années différentes, ouais.
Mais très différentes, c'est-à-dire pas 6 mois ou 1 an qui les séparent.
Non,
il peut y avoir 10 ans, 4-5.
6 peut-être, 7, non, 6, ouais, 5 ou 6.
Fabio Viscogliosi, c'est un album qui s'appelle Rococo.
Il semble, quand nous voyons les tableaux de Watteau, quand nous entendons la musique de Mozart, qu'il y ait une sorte de glorification du plaisir pour lui-même, que l'homme vive uniquement pour cette espèce de délectation suprêmement raffinée. Mais en réalité, nous surprenons dans cette délectation même, nous surprenons dans cette poursuite presque désespérée de la joie telle que nous la voyons chez Watteau, telle que nous la voyons chez Mozart, nous surprenons l'amorce d'un drame, le drame de l'homme qui se dit que cette joie qu'il tient, qu'il croit tenir, est peut-être irréelle, et que si elle est réelle et s'il la tient, elle est en tout cas passagère. Et alors, cette joie de l'homme rococo, cette joie de la période rococo, finit par devenir quelque chose d'intensément dramatique parce qu'il s'y ajoute le pressentiment de l'impermanent et du périssable. Et cela est tellement vrai qu'il est il me semble impossible de marquer une limite précise entre le rococo et le romantisme.
1950, sur la radio-télévision française RTF, il s'agissait de Marcel Brion, spécialiste de la Renaissance, qui parle de ce mouvement rococo, d'une pensée rococo de la vie. Alors vous, il vous emmène où, ce mot-là, avec lequel vous baptisez votre album?
Alors, pour moi, c'est un de ces mots, bon, déjà très musical. Très musical, comme ça, rococo, bien sûr. J'aime bien que les titres de disques soient faits d'un seul mot. Spazio, rococo. Et petit à petit, il s'est débarrassé de sa référence initiale, c'est-à-dire le style rococo. Je l'imaginerais assez volontiers, par exemple, comme une réplique dans un film de Renoir ou dans un roman de Chandler où le personnage, face au côté un peu à la fois tragique, comique et dérisoire de l'existence, du réel et des choses, dirait c'est un petit peu rococo cette histoire. Ouais. Et bon, après j'ai un petit peu enquêté sur le mot et je me suis aperçu effectivement qu'il était la combinaison de deux autres mots, notamment le baroque, barocco en portugais, Et quelque chose qui a résonné chez moi, c'est à voir avec la rocaille aussi, c'est-à-dire qu'on faisait des rocailles rococo. Et la rocaille, c'est quelque chose qui me touche aussi, puisque j'ai des souvenirs d'enfance, en fait, de rocaille. Quand mes parents immigrés italiens ont enfin pu construire leur maison, ils ont fait une rocaille devant la maison.
Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est ?
La rocaille ?
Ouais.
La rocaille, enfin, telle que moi je l'ai compris quand j'étais tout jeune, justement, je découvrais le mot avec la chose. C'est un agencement de cailloux et de plantes, avec soin, totalement gratuit, décoratif, devant une maison.
Ou derrière,
voilà. Enfin, en général, soit une petite butte, comme ça, qui descend. Il y a l'allée qui arrive, il y a la porte, et puis il y a la rocaille. Et cette rocaille, c'était quelque chose qui me fascinait. Je me souviens qu'on allait le dimanche, quelquefois, dans les Alpes, chercher, ramasser quelques cailloux pour disposer dans la rocaille. Et la rocaille, c'était ce... Et je comprenais pas pourquoi mes parents avaient... C'était important pour eux d'avoir une rocaille, de faire quelque chose qui était... Et c'est un endroit touchant parce qu'il y a quelque chose de miniature dans la rocaille. C'est une reconstitution. Enfin, c'est pas un jardin zen, mais il y a cette idée aussi. Parfois, elle peut être complètement baroque et excessive. Elle est rococo. Mais il y a aussi des espaces entre les choses, entre les plantes et les cailloux. Des espaces qui sont finalement importants, émouvants, soignés. Et c'est un peu aussi comme ça que finalement on fabrique une chanson. Il y a des espaces importants et il y a l'idée de composition dans la rocaille qu'on retrouve dans toute forme, dans un livre, dans un disque, dans un tableau, dans un dessin. Et donc voilà, c'est un mot qui m'est sympathique.
D'agencement, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire vraiment de prendre des petites choses au réel comme ça, des plantes, des cailloux, et puis de refaire du réel ou de refaire un pastiche de réel, quelque chose qui soit aussi une déclaration. Dans ce que vous dites, c'est assez beau de dire une fois installé, ces gens-là ont fait ça, comme si c'était une manière de citer une provenance, de garder quelque chose, d'amener quelque chose.
Oui, c'était. Ben, je pense que dans leur esprit, c'était avant d'habiter quelque part juste par nécessité. Tout à coup, on accède à un lieu qu'on peut organiser, agencer avec une forme de avec un soin, une forme de poésie pour soi-même, tel qu'on peut l'entendre, enfin tel qu'on peut ce qu'on peut y voir et y trouver. Et je sentais que c'était important, oui, dans ces vies-là, dans celles de mes parents. Et probablement, je sais pas, peut-être que ça m'a rendu sensible à cette chose qui s'appelle la construction, l'agencement, oui, qui est la composition. Composition. Donc voilà, c'est...
Il y avait aussi dans cette archive de 1950 l'idée de la joie, qu'elle est comme ça présentée très, très intensément, très flamboyante, mais qu'en réalité elle est dramatique et qu'elle porte dans son intensité la conscience qu'elle est brève, et absolument brève et forcément brève, et que c'est notre condition d'humain, et qu'elle n'arrivera que comme ça, et que c'est une illusion que de la vouloir longue. Ce serait la perdre d'une certaine manière. Ça aussi, c'est quand même assez présent dans ce que vous écrivez pour ce disque, et puis de manière comme si vous aviez élaboré un peu une pensée de ça, j'ai l'impression.
Oui.
Une pensée rococo.
Voilà, c'est tout, moi. Hein. Mais non, c'est très beau, là, comme vous, cette manière de le décrire. Et ce qui était dit effectivement dans l'archive. Et c'est marrant parce que le rococo c'est plutôt péjoratif. Parfois, quand on parle du rococo, c'est quelque chose qui est un peu...
Dans l'imaginaire, moi, avant cette archive, oui, je pensais que c'était un truc un peu...
C'est too much. C'est
trop. Voilà, j'allais
dire
ça.
C'est un peu trop, ça peut être un peu kitsch pour certains, ça peut être... C'est comme une pâtisserie qui en fait beaucoup, hein. Mais probable, c'est un petit peu rococo, ça voudrait dire, effectivement. Il y a une forme d'humilité par rapport à ce trot qui court et qui, effectivement, il y a une fulgurance ou un caractère éphémère d'apparition de quelque chose. Donc, finalement, ce trot du rococo, peut-être qu'il demande un tout petit peu plus de...
Considération.
Et d'indulgence.
Vous travaillez plutôt par le passé, votre composition, elle fonctionne comment, si on reste, par exemple, du point de vue musical, Fabio Viscoli aussi.
Alors souvent on m'associe à des termes comme minimalisme ou douceur, alors que moi j'ai toujours l'impression de vouloir faire le contraire, mais j'ai tendance à trouver qu'il y a toujours un peu trop de choses, oui, donc j'aurais tendance à gommer ici ou là pas mal.
Faire le contraire, c'est-à-dire si vous vous détachez de ce à quoi on vous associe et que vous n'êtes pas du côté du minimalisme et de la douceur.
Moi, je trouve, par exemple, je pense qu'il y a une sorte de luxuriance ou de un côté orchestral des choses, un petit peu plus dans ce disque, parce qu'il y a comme ça, il y a des cordes qui jouent, il y a d'autres instruments. Mais effectivement, j'ai aussi cet idéal comme ça, lointain et adolescent du minimalisme et de la musique ou de la chose qui tient avec trois éléments en fait et qui crée comme ça un contrepoint suffisant pour avoir un tout et éliminer ce qui serait le superflu ou l'inutile dans le trop de l'orchestration.
Ce qui arrive parfois dans vos dessins par exemple.
Qui est trop de choses ?
Non, l'inverse. Que ça tienne avec trois masses, trois choses en équilibre, trois couleurs, trois teintes,
oui.
Deux d'ailleurs.
Je ne sais pas si ça tient, mais effectivement, il y a souvent cette espèce de dialectique, c'est un grand mot, mais enfin, en tout cas, interaction comme ça entre deux ou trois éléments. Trois éléments, c'est bien en général. Un, c'est vraiment la solitude absolue. C'est-à-dire, faire un tableau avec une seule chose, c'est difficile. Deux, bon, il y a trois, ça devient intéressant. Il y a une tension intéressante dans le triangle. Il me semble appartenir à une école comme ça qui peut-être célébrerait cette manière de faire les choses. Mais dans l'autre main, il y a cette fantasmatique du grand orchestre, de choses, voilà, Frank Sinatra, 40 violons qui peuvent jouer une mélodie à la fois très simple mais très ample.
Et vous vous offrez ce plaisir?
Oui, d'ailleurs, la Frank Sinatra est venue avec ses 40 violons.
Non, mais Fred Palem, enfin, je sais pas, il y a des orchestrations où on sent que on voit pas pourquoi vous bouderiez ce plaisir-là. D'un peu de symphonique, en fait.
Tout à fait, oui. Et puis, il y a aussi on utilise des trucs, parce que, alors, quand on utilise peu d'éléments, mais dans la musique, on peut utiliser la réverbération ou le délai, et qui sont vraiment des données intéressantes, parce qu'ils créent, justement, enfin, ils accentuent un espace possible, comme si une forme venait s'inscrire dans une pièce beaucoup plus ample.
Est-ce que vous avez en tête des couleurs lorsque vous composez ?
Je dois avouer que je suis un petit peu daltonien. En fait. Donc j'ai un rapport avec les couleurs assez compliqué. Et j'ai tendance, y compris dans mes dessins et mes peintures, mais peut-être en musique aussi, à utiliser peu de couleurs. Et en général, des couleurs qui sont contrastées. Donc peut-être possible que dans la musique, je pense pas à des couleurs, mais je pense à des contrastes de sons.
Daltonien, ça veut dire qu'on voit pas exactement les bonnes couleurs ?
Je sais pas, on m'a dit ça quand j'ai passé les 3 jours à l'armée. Je voyais pas les chiffres et les lettres qui apparaissaient dans des ronds. Donc effectivement, il y a des couleurs qu'on ne voit pas. Mais possiblement, on en voit peut-être d'autres. Peut-être qu'on est tous un peu daltonien.
Dans les espaces entre.
Entre, voilà, et puis peut-être des couleurs impossibles.
Puisque vous parliez délai, trucs, façon de faire, on écoute Marc Ribot à la recherche de la pédale.
Je crois qu'il y a un bon magasin d'instruments là, dans une rue un peu plus bas. Parce qu'il faut que je m'achète une pédale de distorsion. Ça, c'est un moment important de l'interview. C'est une pédale de distorsion à lampe qui sonne comme un ampli, mais sans qu'il sonne comme un effet non plus. Avant de devenir musicien, je pensais devenir archéologue. Je ne sais pas comment l'expliquer.
But for me, the process feels like.
Mais lorsque je joue, c'est une façon de mettre les choses à nu.
Stripping away the unnecessary and finding.
C'est une façon d'enlever le superflu.
What's beneath it, you know, that's the musical.
Tout ce qui n'est pas nécessaire pour trouver ce qu'il y a en dessous.
Yeah. I don't know.
De trouver le musical.
Here I'm in Paris for one day, and what do? I spend.
C'est dingue. Je passe une journée à Paris. Qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve dans les magasins d'instruments à Pigalle à la recherche d'un effet de distorsion. Et tout cela parce que la compagnie aérienne a perdu mes bagages durant le voyage. Une bonne pédale de distorsion de type fuzz C'est une source d'excitation sans limite pour moi, comme le sont les wah-wah ou certains types de
delays.
Mais aussi les effets de filtres dans lesquels je suis très porté en ce moment. Ils ont ce son des années 70, vous voyez. Ils sont tous superbes. Ils remplacent même le sexe et la relation humaine dans ma vie. Et avec beaucoup de succès, je dois avouer.
Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Fabio Viscogliosi.
Et la guitare de Marc Ribot, qu'on entendait à l'instant dans cette émission Décibel de Jeanne-Martine Vacher en 2007, qui cherche une pédale dans les magasins de Pigalle. Vous les connaissez bien, ces magasins-là, à Paris ?
Oui, à Paris et dans toutes les villes que j'ai traversées, c'est la quête du musicien éternel. On espère toujours trouver. La chose rare, unique, ou même dérisoire, des fois un peu sans valeur, mais qui pour nous va en prendre, ouais, dans un vieil instrument, une vieille pédale, un vieux bout de guitare, quelque chose.
Mais c'est une recherche comme quoi, comme un son, c'est, vous avez un truc en tête et puis vous voulez le trouver, ou c'est juste de l'ordre de l'errance, comme ce dont vous parliez au début de l'entretien, c'est-à-dire on se laisse porter et puis on voit, peut-être il y a un nouveau son qui vient.
Oui, ou alors peut-être qu'on a des intuitions et que ce qu'on trouve correspond à ce qu'on ignorait que l'on cherchait, mais qu'on comprend au moment où on le trouve. Mais il y a aussi cette idée, effectivement. Non, c'est plutôt... on parlait tout à l'heure de plier, de laisser faire ou de plier les choses. Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire que les sons ou les objets ou les instruments de musique sont plutôt des choses que l'on trouve, que l'on ramasse, comme on ramasserait des cailloux ou des feuilles, en fait. Et qu'on bricole avec ce qu'on trouvera, et que ce qu'on trouvera nous stimulera, nous suggérera quelque chose. Donc assez peu la volonté... Non, je me promène pas avec l'idée d'un son et je chercherai de partout à le trouver.
Je sais plus du tout si c'est Marc Ribot qu'on entendait là, qui est un grand musicien et qui était à ce micro l'année dernière, si c'est lui ou si c'est un autre grand musicien qui s'appelle Fred Fritz, et qui parlait de la manière dont ils font rentrer, l'un ou l'autre, je sais pas, mais de la matière musicale dans la pédale et qu'ils laissent faire, quoi. Et qu'ils attendent de voir, mais comme, je sais pas, je trouve pas de métaphore, j'en ai une, mais ça va pas du tout, de voir qu'est-ce qui sort, quoi, comme une découverte. Et là, ce que disait Marc Ribot, c'est étonnant, c'est comme si, au lieu de modifier, triturer, transformer, il s'attend à une forme de pureté du musical, quoi. Ça va sortir de la pédale et ce sera... la musique.
Oui, ce sera. Ben en plus, il parle de fuzz et de délai. Donc, ce qui sortira, ce sera inédit. Ce sera pas ce qui sera rentré dedans. C'est-à-dire que là, on joue une corde et puis la pédale va fabriquer un son. Vraiment, on va le transformer, on va le faire vivre différemment. Donc, il y a cet effet de surprise aussi. Je pense que. Et justement, pas d'avoir de trop conditionné, de trop. D'être surpris. Enfin, j'imagine qu'il est surpris par la note qui va sortir là et qui. Qui peut-être va, enfin souvent ça marche comme ça, c'est-à-dire que une note, un son, ça va déterminer tout un morceau, toute une chanson.
Et là, ça a été le cas, par exemple pour Rococo, vous êtes laissé porter par certaines surprises musicales.
Oui, des accidents, des choses qui. Alors avec le temps, j'ai accumulé j'ai mes outils qui sont toujours là, en fait, un peu. Telle vieille guitare, tel vieux clavier, comme ça.
Vieux comment? Vieux, très vieux?
Très vieux, pour certains, oui. Oui, il y a une guitare qui date du 19e siècle, oui. Très vieux. Et non, mais des choses, je dis très vieux, qui m'accompagnent depuis très longtemps, que j'ai moi-même acheté d'occasion il y a des années. Donc, qui sont là, parfois, mais qui ont des défauts, des guitares qui frisent, mais qui me plaisent comme ça. Et... Donc je fais avec ça, mais il y a aussi des accidents. Enfin, cette idée de faire avec ce qu'on ramasse, quand je parlais des cailloux et des feuilles, c'est-à-dire les sons sont comme tels, c'est accepter ce qui surgit et de soi et bricoler avec. Enfin, c'est une donnée très importante aussi. dans mon fonctionnement. Mais j'ai l'impression, pas mal de gens que j'aime bien aussi, qui fonctionnent comme ça.
Marc Ribot, il parlait des années 70 comme étant par exemple un des paysages qu'il pouvait chercher à ce moment-là. Vous, vous avez cherché des époques, vous avez cherché des sons, des paysages, des films, une ambiance pour ce disque-là?
Oui, alors c'est toujours un peu fantasmatique, cette recherche ou l'idée qu'on pourrait s'en faire.
Mais c'est un bon début.
Oui, oui, oui. Ben, je veux dire, c'est-à-dire qu'on s'imagine. Moi, j'imaginais quelque chose qui était lié au bord de mer, à la Méditerranée. Mais j'aime bien une phrase de Borges qui dit ça. Il parle de la proximité de la mer. C'est-à-dire, quand on n'est pas totalement encore vers la mer, mais qu'on commence à pressentir quelque chose de plus fort, quoi. Une espèce de promesse du.
Mais genre 300 mètres ou 10 kilomètres?
Eh ben, quand on a, de toute façon, tant qu'on la voit pas, on sait pas exactement. Donc, il y a aussi cette incertitude-là qui joue de manière comme un aimant, en fait, sur nous. On la devine. Donc j'étais dans ce rapport comme ça, un petit peu d'errance tout à la fois antique qu'on pourrait situer très très loin dans le temps et ou dans la poésie, et puis en même temps ce côté très 50s, 60s lié au cinéma italien, enfin une espèce d'errance comme ça et des souvenirs personnels aussi, de voir moi-même traverser toute l'Italie de long en large, de haut en bas, l'été, sans un sou, comme ça, et puis cette espèce d'illusion du temps dans la proximité de la mer.
Et dans la proximité de l'Italie, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a, mais peut-être c'est vraiment une idée débile, mais qu'il y a un rapport au temps en Italie particulier, très particulier, peut-être parce que il y a Rome, peut-être parce que il y a la possibilité de voir des choses très 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 vieilles, mais je sais pas, quand on est en bord de mer en Italie ou dans les îles éoliennes, ou c'est plus vieux que quand on est en bord de mer en Bretagne. Aidez-moi, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui, oui,
plus vieux.
C'est patiné par des strates même, qu'on devine même sans les voir. Enfin,
sent. Mais en vrai, les roches en Bretagne, elles sont très vieilles aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire?
Je pensais à la patine des lieux, des gens, j'en sais rien, même des voies ou de ce qui s'y passe. En fait, j'en sais rien. Oui, non, on ressent ça effectivement. Il y a un côté, on dirait qu'il y a des sous-couches antiques là-dedans, en fait. Et même dans la modernité, même avec une nuée de scooters ultra modernes, on a ce sentiment d'antiquité présente, ouais, en sous-couche. Ouais. Mais peut-être qu'on projette ça.
Oui, peut-être.
C'est nous qui.
On projette toujours un petit peu. Il a été composé un peu en Italie, ce disque, ou pas du tout?
Non, finalement, pas du tout.
Mais très loin de la mer, quoi, alors.
Mais en y pensant fort, probablement, ouais.
Quando la sera a volte spiaggia, oltre la città. Oh, lo sai, oh, guido lentamente, profumi d'estate, il tuo viso dentro la mia mente.
Vous auriez voulu qu'on arrête plus tôt ?
Non, non, du tout. C'est vous qui décidez. Non, mais cette fin pourrait du. Enfin, pour moi, quand je travaillais dessus, ça aurait pu durer 5 heures.
Si mais justement, on voulait vraiment vous entendre là-dessus, Fabio Vissiolusi, parce que c'est quand même une fin qui est très particulière. Qui là, en effet, en le réécoutant au casque, je me dis, ouais, ça tourne, ça avance, c'est quelque chose qui peut presque devenir Morricone, une musique de film. Enfin, vous avez quoi comme relation avec la fin des chansons ? Vous voudriez que ça s'arrête pas ?
Oui. Alors non, il y a les deux cas de figure. Il y a celle qui vraiment a besoin de s'arrêter de manière très brusque et claque. Et puis ce genre de chanson, mais là tout le texte, toute la chanson, toute son atmosphère parle de l'errance justement quand on conduit dans une voiture l'été, les fenêtres ouvertes.
Ça peut durer très longtemps. Ça on voudrait être... que ça dure hyper longtemps.
Voilà, et on conduit pas forcément très vite. On se laisse prendre par entre chien et loup comme ça. Il y a quelque chose. Et parfois il y a l'écho d'une musique, soit dans sa propre voiture, soit qui vient de l'extérieur. Et on arrive et on a le sentiment que ça dure à l'éternité. C'est-à-dire il y a quelque chose de et qu'il va y avoir une succession de micro-événements, de micro-perceptions, de choses qu'on va entrevoir, de quelqu'un au bord de la route, voilà. Donc toute la chanson, là, pour le coup, est vraiment ça.
Et se prête à ce son qui tourne, à cette...
Voilà, cette vis sans fin qui voilà.
C'est le moment des odeurs aussi, le chien et loup, parce qu'il y a quand même cette idée de l'odeur du jasmin.
Voilà, le jasmin, il y a la plage, les traces de pas, le souffle, ouais, de tout ça, oui, ce chien et loup, c'est une heure qui me fascine effectivement, et qui hésite, et tout en révélant des zones qu'on voyait moins quand il y avait le plein soleil ou quand il y a la nuit totale. Donc
meilleure heure pour aller à la plage.
Pour tout, pour boire l'apéro, pour la plage, pour rien faire, pour travailler, enfin je sais pas, pour écrire, on peut écrire un livre, on peut traîner, c'est une très bonne heure.
Ouais, parce que aussi la lumière a décru, il y a quelque chose qui est comme ça, qui est moins aveuglant, qui est moins violent aussi. Moins violent, c'est vraiment moins violent et c'est un peu la lumière de ce disque-là, je dirais. C'est-à-dire que c'est quand même pas une lumière violente ce que vous cherchez.
Non, c'est vrai que le chien et loup, en plus, on a l'impression que même quand on se promène là en ville vers cette heure-là, on ressent. C'est comme si tout le monde avait une espèce de regain d'énergie d'un seul coup. Il y a des espoirs, les espoirs de la soirée, les espoirs. La journée a parfois été difficile et tout à coup, il y a une excitation qui va remonter, mais une excitation, une jubilation un petit peu comme ça, une micro-jubilation où les gens se retrouvent. Enfin, il se passe quelque chose de particulier, énergétique un peu et doux à la fois. Donc, ça pourrait sembler contradictoire, mais effectivement, il y a peut-être la combinaison de ces deux aspects-là, l'énergie et la douceur simultanée.
c'est parfait. C'est une chanson qui est chantée en italien, et donc dans un disque où il y a des chansons qui sont chantées en français et des chansons en italien, bah ça fait une question, ça fait une remarque, en tout cas ça fait une curiosité. Vous avez quoi comme rapport à cette langue-là et comment ça se fait que certaines des chansons, elles vous viennent dans une langue et puis dans d'autres? Et puis est-ce que par exemple Jasmin ne pouvait pas être écrite autrement qu'en italien?
Oui, alors qu'elle porte un titre en français, mais la manière de faire, c'est les chansons viennent, en fait. Je calcule pas ça. Alors, certainement que mon rapport à l'italien est beaucoup plus fantasmatique, à nouveau, c'est-à-dire que c'était plutôt la langue de mes parents, de ma famille, et j'ai un rapport de projection par rapport à ça. Et je, parfois des faux amis entre l'italien et le français qui viennent s'introduire. Donc peut-être le français me permet une plus grande précision et l'italien une plus grande rêverie. Voilà, il y a une espèce de jeu entre ces deux pôles chez moi. Mais c'est pas conscient, réfléchi, déterminé avec une espèce de volonté de faire, de prendre l'une ou l'autre langue. Ça arrive comme ça.
La poésie peut s'exprimer aussi dans le roman. Comme beaucoup d'écrivains l'ont montré, de façon éminente, Marcel Proust. Mmh. Enfin, c'est un genre déterminé qui s'étale dans le temps autrement que le poème. Comme tout écrivain, je souhaite être lu. J'ai essayé de m'exprimer par le théâtre, mais c'est vraiment difficile à notre époque. Et donc, je me suis orienté vers le roman à cause de ça. Mais toujours, j'ai accompagné mes romans d'écriture de poèmes, comme deux versants, somme toute d'une même chose, mais s'exprimant autrement.
Il y a quelque temps, en milieu d'après-midi, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai réalisé qu'il était urgent de reconsidérer ce qui, dans ma vie, m'apparaissait comme essentiel. L'urgence était telle que je ne pouvais attendre un jour ou une seconde de plus. J'ai immédiatement pris la décision de m'atteler à cette tâche qui, dans le fond, représente peu d'efforts, car il s'agit tout simplement de lâcher prise et de suivre sa pente, au sens propre. Plus rien ne saurait me détourner de mon chemin, me suis-je dit. Et j'en ai aussitôt éprouvé une joie intense. Cette joie débordait de toutes parts. Elle circulait dans mes veines et dans les pièces de l'appartement. Elle s'échappait par les fenêtres, réveillait par bouffées des sensations enfouies, passé et présent se confondaient. Je suis vivant, me disais-je. Et j'ai descendu 4 à 4 l'escalier de l'immeuble pour me retrouver dans la rue. Le soleil frappait le trottoir. Le monde était toujours à sa place, différent et égal à lui-même. Il suffit de le saisir, pensais-je. Et je me suis mis en marche, le cœur léger, en roue libre.
Vous l'avez probablement reconnu.
Un petit peu.
C'est un texte qui ouvre l'apologie du slow que vient de lire Romain de Bec de Lièvre et c'est un des livres que vous avez publié. Et juste avant, c'était Henri Beauchaud qui parlait au micro d'Alain Weinstein en 1997 de la complémentarité de ses expressions et des choses qu'il essaye au théâtre, des choses qu'il essaye dans le roman. On peut même considérer des choses qu'il essayait dans sa pratique de la psychanalyse d'une certaine manière. Tout était un monde qui tenait comme ça. Est-ce que c'est ainsi que vous voyez la pluralité des voix de votre expression?
Le fait d'utiliser le dessin, l'écriture, la musique, enfin toutes ces choses-là. Oui, exactement comme il le décrivait, ça c'est bien.
L'inverse d'un éparpillement, justement.
Ah,
plutôt
oui, oui.
Une manière de, comme ça, poser des choses.
Oui, c'est ni l'éparpillement, ni le côté touche à tout, parce que finalement on ne touche pas tant de choses que ça. Elles sont, enfin voilà, moi j'ai 2 ou 3 outils, et puis ils sont toujours les mêmes depuis tellement d'années que finalement... Mais chacune de ces, enfin moi, chaque chose est une tentative. Enfin, j'aime bien voir ce qu'on produit sous la forme de la tentative bricolée et qui d'une certaine manière est plus ou moins voué à une forme de semi-échec. C'est-à-dire, les choses ne sont jamais le chef-d'œuvre absolu, la perfection, on ne l'atteindra pas, mais il y a cette idée de tentative, donc, et de bricolage, qui sont des, mais pas bricolage pour donner un objet qui est mal fini ou qui aurait l'air un peu comme ça de travers, mais tout simplement dans un rapport de simplicité avec ces tentatives. En fait.
Oui, c'est ça, c'est plus, c'est de la, quand je vous écoutais parler, je me dis, c'est l'humilité de mettre en œuvre ce qu'on peut mettre en œuvre avec les outils qu'on a, le mieux possible. Mais ça veut dire que j'ai même l'impression que l'horizon de la perfection, je ne sais même pas si vous l'avez.
Non, on est toujours un peu maniaque. À force de passer tant d'heures tout seul à faire ces choses-là, à bricoler tout seul, on devient un petit peu maniaque. Donc, mais effectivement, ce n'est pas l'horizon de la forme parfaite ou d'un agencement parfait, mais plutôt d'un agencement variable. Donc ce qu'on peut accepter de jour en jour, justement, c'est des combinaisons différentes, des tentatives différentes. Faire du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a entre les mains, en fait.
Et dans l'extrait lu par Romain de Becdelièvre, qui ouvrait un livre qui lui-même procède d'agencement, puisque ce sont des brefs chapitres, parfois très très brefs, parfois un petit peu plus longs, on a l'impression d'un moment comme ça, après quoi il n'y a pas eu de retour, d'un vrai moment de bascule. On vous voit descendre les escaliers là, dans la rue avec le soleil et tout ça, et vous n'êtes jamais rentré. C'était trop cool.
Non, mais... bon, j'y suis encore.
Et vous y êtes encore. Je suis pas rentré chez moi. Bravo. Et c'est quelque chose qui est. Enfin, c'est pas la question de vous demander si c'est vrai ou pas, mais. Si j'ai quand même envie de vous demander ça, qui s'est vraiment passé comme ça. Il y a un moment donné, vous vous êtes dit, bon, en fait, là, je suis vivant et. On va y aller, quoi.
Mmh. Oui, un peu de ça, ouais. Déterminé par des événements divers et qui vous font appréhender un petit peu tout différemment, bien sûr. Ouais.
Ou pas ?
Différent égal, en fait, c'était ça, cette idée. C'est-à-dire que c'est plus le regard qu'on porte sur les choses. Le monde, et il est à la fois... il est un peu rococo, hein. C'est-à-dire qu'il est à la fois... il change sans cesse et il est tout le temps le même. Et de manière assez impitoyable et en même temps... agréable. Et c'est cette combinaison du différent égal, ouais, je trouve.
Parce que ce que constate cet extrait ou ce texte-là, c'est que le monde, il est là, en fait.
Ouais,
nous, on bouge beaucoup, on s'agite beaucoup, mais lui, en fait, vous ressortez, bon, ok, vous le regardez peut-être différemment, mais il a peut-être pas beaucoup changé.
Non, bien sûr que le monde est là, bien sûr que la nature nous surpasse, elle nous est... Et justement, on ne peut que ça commoder et chercher à trouver sa place par rapport à ce monde-là, mais finalement assez peu enfin moi j'ai pas l'ambition de le modifier de ce point de vue-là, c'est-à-dire je préfère déambuler dans les agencements possibles.
Est-ce que ça passe par la joie, qui est un mot qui existait dans ce texte-là, et dont on parlait tout à l'heure avec le rococo?
Oui, il y a quelque chose de, en tout cas d'énergétique, ouais, une forme, ou je sais pas, parfois une euphorie peut-être même. Il y a cette dimension-là aussi, oui. Mais c'est une forme d'épiphanie de l'instant aussi, qu'on peut, voilà, on peut se retrouver en bas de chez soi, sur le trottoir, et ressentir ça très fortement. J'appelle ça la densité du bitume, moi. C'est-à-dire, tout à coup, on a une perception, on marche dans une rue, même de nuit, tout seul, et tout à coup, on a un sentiment vraiment de présence du monde, aussi simple soit-il, et aussi complexe soit-il au même instant.
Et ça passe aussi par un peu de tranquillité.
Et ben lui, il voulait danser un slow sur cette chanson.
On veut y aller, mais on voudrait plaire, mais peut-on plaire ?
Donc il m'a un peu collé et je me suis dit, mince, il va me déclarer quelque chose, quelle horreur. Je vais pas savoir quoi faire.
Donc se pose des questions vestimentaires, on a très très peur. Le pas de def est-il suffisamment def pour être agréable, quoi ?
Et donc c'était un slow un peu tendu, un peu... On n'était pas tout à fait collé serré, on essayait de trouver un rythme en plus sur cette chanson qui n'est pas tout à fait slow. C'était assez drôle. Et lui, il avait une odeur très particulière. Je me souviens.
Elle tournait la tête et là, il y avait cet art. C'était une autre chorégraphie qui se mettait en place. C'est l'art du retour à sa chaise. Et donc, Il s'agissait de prendre une espèce de virage, une tangente, une courbe, pour pas avoir l'air d'avoir eu ce qu'on appelle traditionnellement le râteau du siècle.
Et je crois... En fait, je me souviens pas très bien. Je crois qu'il ne m'a rien dit. Je crois qu'il a senti un peu la tension que j'avais. Et bon, c'était un slow que j'avais envie de terminer assez vite, j'avoue.
Petit clin d'œil au titre du texte que lisait Romain de Bec de Lièvre, l'apologie du slow, et qu'on peut trouver chez Stock, Fabio Viscogliosi. Et puis comme ça, ça me permet d'inviter les auditrices et les auditeurs à écouter cette création on air de Thomas Guillaume Bataille et l'ensemble du travail de Thomas Guillaume Bataille en création sonore qui vaut le détour. Et de dire que ça peut mettre dans cet état-là, cette espèce de bonne lenteur du slow, votre disque. Énergétique.
Merci, parfait.
Ça vous va ?
Oui, oui, d'autant que le slow, c'est une donnée toute relative.
C'est-à-dire ?
Souvent, on le règle par rapport à la fréquence de son cœur. La musique rapide, c'est celle qui va plus vite que notre cœur. La musique lente, ça irait un petit peu en dessous. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui est slow pour un caillou ou pour la planète Mars hein ?
Et qu'est-ce qui est slow pour vous ? Alors, elle est où votre lenteur à vous ou le bon rythme pour faire les choses ?
J'ai arrêté de boire du café, en fait. Je travaille sur mon slow. J'étais trop speed.
Je voudrais quand même dire qu'il y a un petit café qui traîne, puisqu'on a commencé par la pochette de l'album, et qui fume.
Oui, qui traîne et qui fume. Voilà, mais c'est juste, je m'envoyais un message à moi-même.
Arrête.
Je ne peux plus que le dessiner.
Merci beaucoup Fabio Viscogliosi. Rococo est paru chez Objet Disque.
Merci.
C'était Pascal Baudin à la prise de son ce soir et Charlotte Roux, le retour à la réalisation par les temps qui courent. C'est Jeanne Aléos avec nous, Romain de Bec de Lièvre avec Marianne Chassor et Lucie Riondet. C'est aussi une page internet franceculture.fr par les temps qui courent, un podcast via l'appli Radio France et c'est France Culture bientôt, le journal 22h. Très belle soirée.